Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'un des débats qui agite le plus la campagne des municipales.
Celui de l'armement des policiers municipaux. La sécurité est avec l'environnement en tête des préoccupations des Français à 6 semaines maintenant du premier tour. Même Anne Hidalgo à Paris s'est convertie à l'idée de créer une police municipale, mais seulement armée de matraques. Néanmoins, ce glissement est révélateur de ce besoin croissant de protection. Les violences aux personnes ont augmenté l'an dernier de 8%. Nous avons suivi des policiers municipaux s'entraînant contre des attaques au couteau. C'est un reportage d'Alice Moreno.
L'exercice débute dans un vaste hangar. Un homme armé d'un couteau surgit et simule un coup de poignard sur une passante. Trois policiers municipaux brandissent des armes de poing factices, lancent leur chien sur l'agresseur, le maîtrisent en quelques minutes. Parmi les fonctionnaires à l'entraînement, Hervé, policier à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, dans sa commune, lui et ses collègues sont déjà armés.
C'est nécessaire. Nous sommes sur le terrain, les primo-intervenants, on l'a vu, mais même à Villejuif, sur l'attaque au couteau, les primo-intervenants, c'était la police municipale. L'entraînement, c'est sine qua non pour aller sur la voie publique. Si on n'est pas entraîné, effectivement, il vaut mieux pas être armé. Et...
Il va d'ailleurs s'entraîner sur le stand de tir à proximité. Plusieurs candidats aux élections municipales assistent aux démonstrations. Nicolas Ferring brigue un mandat à Anzin dans le Nord.
Moi, je milite dans ma commune pour l'armement de la police municipale. On voit bien lors des interventions différentes qu'on a pu nous montrer ce matin que l'usage de l'arme n'est pas systématique et qu'il est avant tout là pour protéger le fonctionnaire.
Aujourd'hui, plus de la moitié des policiers municipaux sont armés en France. Ils étaient 37% avant les attentats de 2015.
Reportage d'Alice Moreno.
Alors, faut-il continuer d'armer les policiers municipale, ce sera notre débat. À 8h20, nous serons avec Rocco Cotento, qui est porte-parole du syndicat de police Unité SGP Police et responsable départemental à Paris, et Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France.
Une attaque au couteau, une vraie cette fois, contre une gendarmerie de Dieuze en Moselle. Un militaire de 19 ans a fait irruption hier en milieu d'après-midi. Un gendarme lui a tiré dessus, les deux hommes sont blessés. L'assaillant aurait appelé la caserne juste avant pour prévenir qu'il allait commettre un carnage au nom de l'État islamique. On sait qu'il avait rejoint l'armée en décembre. La justice doit dire dans les heures qui viennent si elle retient ou non la piste terroriste.
RTL, il est 8h02.
RTL, municipal 2020.
Gros plan ce matin sur la campagne à Lille.
Quatrième tour de piste pour Martine Aubry. L'ancienne ministre âgée de 69 ans promet que cette fois, ce sera bien son dernier mandat si elle est réélue. Franck Hanson l'a suivi dans un quartier populaire et bobo, le marché d'Oisem.
Entre les étals du marché de Oisem, elle se ferait un chemin d'un pas décidé. Martine Aubry a remobilisé ses militants, plutôt bien accueillis dans ces quartiers populaires.
Madame le ministre,
ça va bien. Lui m'appelle Martine, c'est mieux.
Vous savez que j'adore Lille et les Lillois surtout.
On a besoin de vous en tout cas, madame. Marre de Macron, oui. Martine Aubry, maire de Lille.
On a encore beaucoup de choses à faire, y compris sur le marché.
Bon. L'ex-ministre socialiste qui défend son bilan lillois a des accents encore plus écologiques. Elle parle métamorphose paysagère et sécurité avec plus de vidéosurveillance, ce qui n'a pas toujours été sa tasse de thé. Face à des concurrents en ordre de bataille, la maire sortante veut garder ses valeurs.
La transition écologiste n'existera pas s'il n'y a pas de justice sociale. Ceux qui souffrent le plus des problèmes du climat aujourd'hui sont les plus pauvres. On n'a pas attendu les derniers jours pour savoir que le climat est un problème majeur. Nous ne proposons que des choses que nous savons que nous ferons.
La liste écologiste.
On le croise souvent dans le quartier à vélo. Stéphane Bally, le candidat Europe Écologie Les Verts, se sent pousser des ailes. Dans la majorité municipale depuis 2001, le parti, donné deuxième selon un dernier sondage, assure que l'alliance ne sera pas automatique.
Nous partageons un socle de valeurs communes, mais néanmoins des désaccords sur un certain nombre d'aménagements. Clairement, l'objectif, c'est que Lille, en mars prochain, connaisse le premier maire vert de son histoire.
Sous la bannière République en Marche, menant une campagne très active, Violette Spielboot, ancienne collaboratrice de Martine Aubry, dénonce une usure du pouvoir. Dans ses rangs, quelques déçus du PS, comme Laurent Guyot.
La gouvernance qui était de mise, effectivement, avec Martine Aubry, n'a plus cours. Moi, ce qui m'a déçu le plus, c'est la stratégie de bétonisation forcenée. Je pense qu'après 24 ans de mandat ici à Lille, il faut un nouveau souffle.
Et la droite lilloise s'est réunie autour de l'ancien ministre Marc-Philippe Daubresse, avec le renfort de la députée Valérie Petit, ex-macroniste. Chacun entretient le flou sur les possibles alliances qui seront de toute façon déterminantes au second tour. Martine Aubry a en tout cas déjà convaincu l'actuel président du département du Nord, qui était son adversaire il y a 6 ans.
Voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Reportage signé Frank Hanson à Lille. Aux États-Unis, le coup d'envoi de la primaire démocrate dans l'Iowa plombé par des bugs techniques cette nuit. Le vétéran Bernie Sanders s'affirme selon ses propres chiffres partiel. Être en tête devant Pete Buttigieg, son équipe l'annonce dans un communiqué en raison de l'incapacité du Parti démocrate de l'Iowa à publier des résultats ce soir. Voilà, ambiance. Joe Biden, lui, n'arriverait toujours d'après ses résultats que quatrième.
RTL Matin, 8h05.
La Chine tourne chaque jour un peu plus au ralenti.
Avec l'épidémie de coronavirus qui vient d'ailleurs de faire un premier mort à Hong Kong, la plus grande ville de jeux du monde, Macao, annonce la fermeture de tous ses casinos. Il y en a plus de 40 pour deux semaines. C'est la plus grande ville de jeu, plus grande que Las Vegas. Hein. Sans aucun lien avec le virus chinois, cette vaccination taille XXL sur le port de Marseille, elle a commencé hier après-midi. Elle concerne 4000 travailleurs d'un chantier naval depuis l'apparition d'un pneumocoque. La bactérie, vous le savez, s'est développée dans ce milieu très confiné, fermé, qui emploie des ouvriers en sous-traitance de toute l'Europe. On trouve notamment des Italiens, des Roumains, mais aussi des Lituaniens.
Alors des travailleurs européens temporaires qui ne paient pas de charges sociales en France, et pourtant la législation européenne devrait mieux encadrer le recours à ces travailleurs depuis une nouvelle directive adoptée en juin 2018. Un an et demi après, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est la question de 8h.
Et c'est avec vous, Christophe Ponzio, bonjour.
Bonjour.
Malgré le durcissement des règles, est-ce toujours aussi intéressant pour les entreprises de faire appel à des travailleurs détachés?
Eh bien oui, hein, puisque d'abord, leur temps de travail passé en France est toujours quasi illimité. Il n'est pas encore plafonné à 12 mois, comme le prévoit la directive. Intéressant ensuite parce que la rémunération des travailleurs détachés ne comprend toujours que le SMIC, toujours pas de remboursement obligatoire des frais professionnels, logement, repas, transport, là aussi hein, prévu par le nouveau texte. Et puis enfin, les sanctions en cas de fraude au détachement n'ont pas changé, même si la directive prévoit le doublement des amendes de 4 à jusqu'à 8 000 euros par salarié. Et pourquoi cette inertie? Tout simplement parce que la nouvelle directive adoptée par le Conseil européen et le Parlement français il y a presque 2 ans, eh bien cette nouvelle directive n'entrera en vigueur que l'été prochain, le 30 juillet.
Donc, on imagine que c'est après que ça va se corser. Mmh. Christophe, les contrôles, est-ce qu'ils se sont multipliés?
Alors là oui, hein, l'inspection du travail réalise désormais 1700 contrôles par mois, 3 fois plus qu'en 2015 pour lutter contre la fraude. Un peu plus de 800 amendes prononcées en 2018, mais cela reste hein, une goutte d'eau par rapport aux près de 600 000 salariés portugais, polonais, allemands ou roumains détachés en France et qui sont, eux, déclarés.
La question du 8h ce matin avec Christophe Ponzio.
Nouvelle hausse record de saisie de tabac et de cigarettes de contrebande. Plus de 360 tonnes saisies l'an dernier. C'est une hausse de près de 50%, annonce ce matin de Bercy. À Paris, porte de la Villette, nouvelle évacuation en cours d'un campement de migrants. Une semaine après celle de la porte d'Aubervilliers, où 1400 personnes avaient été délogées.
Dans un court instant, faux Jean-Yves Le Drian, mais vrais escrocs. Allez, restez avec
RTL 8h07.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Il se faisait passer pour un ministre pour escroquer leurs riches victimes.
7 personnes comparaissent à partir d'aujourd'hui à Paris pour avoir emprunté la voix et parfois même les traits de Jean-Yves Le Drian. À l'époque où celui-ci était ministre de la Défense de François Hollande. C'est une vaste fumisterie qui leur a quand même rapporté 50 millions d'euros, Thomas Proutot.
En effet, c'est d'abord vers le franco-israélien de 54 ans que se tourneront les regards. Gilbert Chicly, escroc chevronné, s'était rendu célèbre pour avoir arnaqué de grandes entreprises en se faisant passer pour leur PDG. Après les faux présidents, les faux Le Drian, l'accusation affirme que des expertises vocales impliquent de nouveau Chicly, ce qu'il nie depuis son arrestation en Ukraine en 2017 et son extradition vers la France. La technique de la bande était audacieuse, des coups de téléphone soi-disant confidentiels à de grandes fortunes mondiales en imitant parfaitement la voix de Jean-Yves Le Drian. Le faux ministre de la Défense demandait alors des fonds en urgence pour des opérations secrètes avec promesse de remboursement par la France. L'Aga Khan tombe dans le panneau, puis une grande fortune turque. Pour convaincre leur proie, les escrocs organisaient même des vidéoconférences avec des masques. Plus de 50 millions d'euros ont ainsi été détournés. Et si 3 victimes seulement ont pu être identifiées, 150 cibles ont été approchées, dont des responsables tunisiens, pour leur vendre 4 hélicoptères français pour 20 millions d'euros.
Et le procès donc commence donc aujourd'hui, récit de Thomas Proutot.
RTL, 8h10.
Le patron de la Fédération française des sports de glace est droit dans ses patins ce matin.
Poussé à la démission par la ministre des Sports, Didier Gayaguet s'est présenté en homme clean, ce sont ses mots. Il a dit tout ignorer des violences sexuelles qui sévissaient dans le milieu du patinage. On lui reproche notamment le maintien à son poste de l'entraîneur Gilles Bayer, accusé d'avoir abusé abusé de la championne Sarah Abitbol lorsqu'elle était mineure. Dans son club parisien, le club de Gilles Beyeur, l'heure n'est visiblement pas à la transparence, Quentin Vasselin.
Oui, devant la patinoire de Bercy, deux vigiles bloquent les portes. Si vous n'êtes pas membre du club, impossible de rentrer là où travaillait encore Gilles Beyeur la semaine dernière. Les témoignages se font rares, une habituée accepte malgré tout de se livrer anonymement. Difficile pour elle d'accepter les accusations à l'encontre de l'agresseur présumé de Sarah Abitbol.
Je ne connaissais pas toute cette histoire. Je ne sais même pas si c'est vrai, pas vrai, mais tout de même. Il est attachant, c'était quelqu'un qui était cultivé, avec qui on pouvait bien parler, il avait d'humour. C'est quelqu'un où je me suis attachée, c'est vraiment triste.
Cyril, lui, vient récupérer sa fille de 7 ans après son cours de patinage. Depuis quelques temps, il admet la sensibiliser sur les agressions sexuelles.
La relation que peuvent avoir les entraîneurs avec les enfants, on leur dit de faire très attention, que votre corps, c'est votre corps, il n'y a personne qui doit y toucher. Les grands, ils n'ont pas à vous toucher, vous faire des câlins. C'est d'éduquer, de leur prendre conscience qu'il y a des adultes qui font des choses qui ne sont pas correctes.
Le club des Français volants, institution du patinage depuis 1933, promet une prise de position officielle dans les prochaines heures.
Reportage signé Quentin Vasselin. Un mot de football avec les premiers matchs de la 23e journée de Ligue 1 ce soir à 19h. Lille, Rennes et Monaco, Angers. Puis à 21h, Nantes reçoit le PSG.
C'était donc le journal de 8h avec Jérôme Florin.